À peu près 80% des blessures de surutilisation sont dues à des erreurs d'entraînement.
Mm-hmm.
Donc, on progresse trop vite, disons, un coureur change de soulier pour un soulier qui est peu adapté à sa condition. C'est que souvent, juste parler à quelqu'un, expliquer la blessure, la personne va donner des conseils peut-être pour améliorer son entraînement.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. Dans ce nouvel épisode du balado santé sans rendez-vous créé par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup et qu'on essaie d'éviter le plus possible dans la pratique du sport, c'est-à-dire les blessures sportives. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nos invités, Jean-Sébastien Roy, qui est physiothérapeute de formation, professeur titulaire au département de réadaptation de la Faculté de médecine et chercheur au CIRIS. Jean-Sébastien, bonjour!
Bonjour!
Marie-Hélène Lavallée-Bourget, athlète en athlétisme au sein du Rouge et Or de 2012 à 2016, résidente en physiatrie, ça c'est la médecine physique et réadaptation, 4e année sur 5, maîtrise en médecine moléculaire complétée en 2018 et elle est nouvellement maman. Marie-Hélène, bienvenue.
Merci.
Alors, un sujet qui, doit être abordé quand on parle de pratique sportive, quand on parle de sport, puisque la blessure, ça fait partie justement de... C'est quasiment inévitable, ça fait partie du sport. Mais d'abord, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi vos champs d'expertise, Jean-Sébastien, la physiothérapie?
Ben, peut-être la réponse classique, là, c'est pour aider les gens. Mm-hmm. On a toujours le désir d'améliorer la qualité de vie des personnes qui ont de la douleur. Donc, c'est un emploi parfait pour ça. En plus, j'étais sportif jeune, donc je vois les gens se blesser, je me blessais. J'allais voir un physiothérapeute, donc... je trouvais la profession intéressante. Puis aussi tout l'aspect du mouvement, comprendre le mouvement, comprendre comment le cerveau contrôle nos gestes. Donc, c'est toutes des choses qui m'intéressaient.
Marie-Hélène, la physiatrie, honnêtement, ça fait pas des années que je sais que ce mot et cette spécialité-là de la médecine existent. Pourquoi avoir choisi la physiatrie?
Moi non plus, je savais pas que ça existait quand je suis rentrée en médecine, pour être sincère, là. Moi aussi, j'avais un intérêt pour le sport, j'ai fait du sport. Puis quand j'ai eu mon premier cours qui a été donné par une physiatre, c'est là que j'ai eu un coup de cœur pour cette spécialité-là. J'ai fait des stages pour aller en savoir plus. Puis vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait en physiatrie. Fait que c'est comme ça que j'ai choisi cette spécialité-là. Puis maintenant, bien, j'en suis à ma 4e année sur 5 de résidence. Donc, j'aime toujours ça.
On l'a dit d'entrée de jeu du balado, la blessure quand on pratique un sport, malheureusement, c'est quasi inévitable. Il n'y a personne de parfait et je veux qu'on le démontre en vous prêtant au jeu, monsieur et madame, une anecdote reliée à une blessure sportive que vous avez vécue au cours de votre carrière de sportif ou tout récemment, là.
Bien, moi, j'ai fait de l'athlétisme, comme on disait tout à l'heure. Là. Puis ma dernière année, j'ai fini ça sur une blessure pour bien finir ça. Là. Fait que, cordonnier mal chaussé, comme on dit, là. Même si je sais comment prévenir les blessures, j'avais une petite douleur que j'ai laissée traîner. Puis dernière année, fait qu'on augmente le volume, on augmente l'intensité, on peut finir sur une belle note. Puis finalement, j'ai fini ça avec une belle fracture de stress. Oh. Fait que, on a fait de la réadaptation. Puis c'est la physiothérapie qui m'a aidée, finalement, à guérir tout ça. Là. Fait que... on apprend de nos erreurs.
Absolument. Jean-Sébastien?
Moi, de blessure, que j'ai pas suivi les recommandations, évidemment. J'ai fait le pantathlon des neiges. J'étais très fatigué après l'avoir fait. Deux jours plus tard, je jouais au hockey. J'ai décidé d'y aller pareil. Je me suis claqué les ischios avec un geste banal que je fais à chaque partie de hockey. Mais là, mes muscles étaient fatigués. Ils n'ont pas réagi. Déchirure du muscle, béquille pendant une semaine, difficulté à marcher. Ça a pris, je pense, 3 mois avant de reprendre la course. Donc, c'est ça. J'ai fait exactement ce qu'il ne le fallait pas faire. J'ai pas laissé le temps à mon corps de se reposer après une activité intense.
Hey, j'ai une question, là, puis parce que ça vient de me popper, là. Est-ce que des fois, les gens qui nous traitent... Est-ce que des fois, les gens qui nous traitent sont des cordonniers mal chaussés? Genre, je vous pose la question, si vous êtes pas à l'aise, on répond pas, là, mais des fois, j'ai l'impression que ces personnes-là, pour en connaître dans ma vie personnelle, notamment, bon, physiothérapie et tout ça, qu'on va... ces personnes-là vont, dans le cadre de leur profession, prodiguer des conseils, des trucs et tout ça. C'est correct, ils font très, très bien leur travail, mais que dans la vie de tous les jours, n'écouteront pas nécessairement les conseils qu'ils vont donner à leurs patients. Ça se peut-tu?
Ça arrive, ça arrive souvent. Des fois, on teste notre corps pour donner des bons conseils à nos patients. Donc, on fait des tests sur nous-mêmes. On fait des tests sur nous-mêmes, puis après, on peut donner des bonnes recommandations. Mais c'est vrai, tu sais, on est des sportifs, donc on veut toujours performer, on veut toujours, on veut pas arrêter. Donc, souvent, on donne des conseils, mais on va tester, voir si je suis pas ce conseil-là, qu'est-ce qui arrive. Puis souvent, on est mieux de suivre les conseils.
D'accord, Marie-Hélène?
Je suis d'accord aussi. Je dirais que ça arrive souvent qu'on donne des conseils et qu'on ne les suit pas. C'est pour ça que des fois, quand on tombe de l'autre côté, qu'on se blesse puis que là, on réalise à quel point c'est difficile de suivre un programme d'entraînement puis de suivre les conseils qu'on donne, ça nous fait réaliser que des fois, se mettre à la place de l'autre, ça peut être bien aussi, là.
Si on s'en va dans le concret du sujet, parce que oui, c'est quasiment inévitable, une blessure quand on pratique un sport, y a-t-il un top 5 ou du moins là, des clés précises à suivre pour éviter de se blesser, notamment écouter son corps quand il est fatigué suite à un pentathlon des neiges, mettons. Mais si on y va, on élabore, je ne sais pas, un top 5 ou peu importe, là, pour avoir des trucs pour éviter la blessure le plus possible.
Moi, dans mon top 1, justement, j'avais mis « s'écouter ».
Mm-hmm.
Ça va en lien, justement, parce que, bon, quand on fait du sport, on finit par se connaître, là. On sait c'est quoi nos limites, puis si une petite douleur est anormale, peut-être que je devrais ralentir un peu. Fait que c'est important d'écouter ces signaux-là. D'y aller progressivement aussi, parce qu'on se connaît tous, hein. Enfin, on recommence une saison, on aimerait ça recommencer, là, on l'a fini, on recommence en feu. Puis c'est comme ça souvent qu'arrivent les blessures, là. Fait que ça, c'était mes deux premiers. J'irai avec l'équilibre aussi. Hein, souvent, on n'a pas beaucoup de temps, on veut faire un sport, fait qu'on se concentre là-dessus. Moi, je fais de la course tout le temps que j'ai tant de minutes, je vais les prendre pour courir. Mais de faire de la musculation, de s'entraîner, de faire de l'étirement, d'être un athlète équilibré, c'est important aussi, fait que l'équilibre dans l'entraînement. Puis les deux autres points que j'avais ajoutés, bien, le repos, on va en reparler plus tard, puis l'alimentation qui sont super importants aussi.
Bien, je suis d'accord avec les points de Marie-Hélène. J'ajouterais bien s'échauffer avant de débuter l'activité. Pas nécessairement s'étirer pendant une demi-heure, mais s'échauffer. Donc, préparer notre corps, préparer notre cerveau à l'activité. Disons, si on va jouer au tennis, bien, au début, s'échanger tranquillement la balle, pas commencer à frapper la balle le plus fort possible du fond du terrain. Donc, vraiment, y aller graduellement lorsqu'on débute une activité. Respecter la fatigue. Donc, quand on a des signes de fatigue, quand notre corps nous envoie des signaux durant l'activité, des fois, ça vaut la peine de prendre un repos durant l'activité, puis d'écouter son corps. C'est primordial.
En tant qu'athlète élite ou ancienne athlète élite, Marie-Hélène, j'imagine que l'approche de l'entraînement est différente que quand on veut entraîner monsieur, madame, tout le monde. Moi, je me considère comme madame tout le monde, là, on s'entend là, en termes d'athlète. L'approche avec un athlète élite, un athlète de haut niveau est différente. Puis j'aimerais ça qu'on fasse la différence entre les deux parce que des fois, en tant que madame tout le monde, on s'inspire des plus grands, on s'inspire des grands sportifs qu'on voit. Les Olympiques viennent de se terminer, mais on ne peut pas faire comme eux. On ne peut clairement pas faire comme ces athlètes-là. Oui, on peut s'inspirer par les performances parce qu'on les trouve beaux, on les trouve juste on trouve qu'ils se dépassent et tout ça, mais on ne peut pas s'entraîner de la même façon qu'eux. Puis j'aimerais ça qu'on fasse une différence entre ces deux approches-là là, pour l'entraînement.
Oui, c'est un bon point, c'est ça. Moi, j'ai l'expérience du sport universitaire, là, puis là, ceux qui sont des athlètes olympiques, c'est encore des expériences encore plus intenses que ça, là. Mais on bénéficie dans ce temps-là d'un encadrement, on a un préparateur physique, on a un coach qui nous planifie nos entraînements, on a des entraînements de musculation, des entraînements spécifiques aux sports qu'on fait, on a souvent des conseillers, on a une équipe de physiothérapie, fait qu'on est super bien encadré, fait que ça, c'est vraiment stimulant pour les athlètes, on a une équipe aussi, puis moi, c'est ce que j'ai trouvé difficile quand j'ai terminé mes 5 années avec le Rouge et Or, de retrouver cette stimulation-là. Puis là, on perd l'encadrement, on tombe un peu à nous-mêmes, comme quand on fait du sport, oui. Puis qu'on s'inscrit à des courses, puis là, on ne sait pas trop comment se préparer, on fait de notre mieux. Fait que c'est d'essayer de retrouver cette motivation-là, de savoir que, bon, c'est pas parce qu'il y a personne qui m'attend ou j'ai pas un entraînement à 5 heures. Il faut que je trouve quelque chose, une motivation qui est propre à moi, une motivation intrinsèque pour y aller. Puis, mais ce qui était un peu présent tout le temps, par exemple, c'est le plaisir de s'entraîner puis d'aimer ce qu'on fait. Là. Ça, c'est important que ce soit là, que ce soit un sport d'élite ou que ce soit un sport pour, comme on dit, monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est un peu la base de tout ça.
On va parler là, dans votre top 5 pour éviter les blessures. Ça faisait partie de vos deux tops, là, justement, le fameux repos, qui est sous-estimé. Puis, avec mon blog, La Folle qui court, des fois, je reçois des témoignages de gens qui commencent la course à pied et qui me disent, mais Joannie, puis pourtant, moi, je suis loin d'être une spécialiste, là, tu sais, de la santé physique et tout ça, mais il y a des gens qui m'écrivent pour me témoigner, bon, de leurs expériences et tout ça. Mais Joannie, je m'entraîne 7 jours semaine ou des fois, je fais 6 jours parce que là, j'ai eu un empêchement ou quelque chose comme ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement motivé par notre activité ou peu importe, on veut en faire encore plus, soit parce que oui, on est motivé ou soit parce qu'on a l'impression que si on n'en fait pas plus, on ne s'améliorera pas. Mais le repos est essentiel, justement, dans la pratique d'une activité physique. Puis je veux vous entendre là-dessus parce que je sais à quel point c'est important puis je veux qu'on en fasse la promotion.
Bien, c'est important pour le corps de se reposer parce qu'il doit se régénérer une fois de temps en temps. Oui. Donc, les tissus doivent s'adapter. Surtout si on veut progresser dans l'entraînement, s'améliorer, prendre la vitesse, prendre la force. C'est sûr qu'un entraînement, souvent, ça amène des bris au niveau des structures musculaires, tendineuses. Puis c'est normal, c'est comme ça qu'on va progresser. Mais si on ne laisse pas le temps au corps de se régénérer, là, on va amener des blessures mm-hmm. ou on va amener une stagnation des performances. Donc, c'est pour ça que c'est si important. Le sommeil aussi est important. Si la personne ne dort pas bien, a de la difficulté à dormir, ça va nuire aussi aux performances. Donc, il y a le repos, mais aussi le sommeil qui est très important mm-hmm. à considérer dans l'entraînement.
Puis, le concept de repos actif aussi, on l'entend beaucoup, pas obligé de faire absolument rien. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce qu'est un repos actif? Des fois, on a de la misère aussi à le saisir, puis on va avoir l'impression de faire un repos actif alors que c'était peut-être une activité sportive en soi. C'est quoi un repos actif?
Mais repos actif, des fois, on peut entendre des athlètes après une compétition, après une course, ce qu'ils vont faire, c'est aller faire un petit jog, par exemple, si on parle d'une course à intensité moins élevée puis moins longtemps. Fait que là, ça permet juste de faire recirculer un peu, de dénouer un peu les douleurs musculaires puis de faire passer la grosse activité qu'on a faite, faire baisser le stress un petit peu. Ça peut être ça, des fois, qu'on entend par repos actif. Là. Fait que une activité à intensité moindre que ce qu'on fait habituellement.
Est-ce que, par exemple, j'ai un plan pour, je sais pas moi, faire mon premier demi-marathon? Dans quelques mois, j'ai 4 entraînements par semaine à faire. Est-ce que si je décide une journée d'aller faire une randonnée dans la montagne avec mes enfants ou avec des amis, de quoi de bien relax, est-ce que ça peut être considéré comme un repos actif aussi? De juste changer le mal de place, comme on dit, juste changer l'activité, puis oui, d'être actif sans nécessairement trop brûler d'énergie.
Oui, ça peut être considéré comme du repos actif. Donc, l'intensité est moindre, le type d'activité est différent. Donc, c'est toutes des choses qui nous permettent de bouger, mais sans surutiliser peut-être les structures musculaires tendineuses qui sont surutilisées dans certains sports ou dans le sport dans lequel on s'entraîne.
Quels sont les sports les plus à risque de blessures? Là, je sais que la course à pied en fait partie, là, puisque j'en pratique, là, mais je sais qu'il n'y a pas juste ça non plus. Quels sont ces sports-là?
Bien, ça dépend du type de blessure. Si on parle des blessures traumatiques, donc qu'on peut avoir si on a un contact direct avec un adversaire ou changement de direction, arrêt brusque. Là, c'est plus des sports comme le football, donc on peut se faire plaquer, qu'on doit faire des changements de direction, le rugby, le soccer, le basketball, le tennis. Donc, tous des sports qu'on peut avoir des blessures plus de type traumatique. Si on parle des blessures non traumatiques, de plus de type surutilisation, évidemment, il y a la course à mm-hmm. pied qui est très demandant pour le squelette, donc très demandant pour les articulations. Mais on a aussi le soccer. On voit souvent des tendinopathies chez les joueurs de soccer, chez les joueurs de basket aussi qui doivent sauter à répétition, les joueurs de volleyball.
Donc, ou changer de trajectoire rapidement aussi, des arrêts rapides et fréquents. Là, ça doit faire partie aussi des sports à risque.
Oui, c'est stressant aussi pour les articulations. Donc, tu sais, un sport peut être problématique ou à risque de blessure pour des blessures de type traumatique ou pour des blessures de type de surutilisation. Donc, même chose, natation. Donc, natation, souvent, on va voir les gens qui se font des tendinopathies aux épaules parce qu'ils surutilisent leur épaule, ils viennent fatigués. Donc, ils vont développer des douleurs au niveau de l'articulation. Donc, En fait, tous les sports peuvent venir à des blessures, malheureusement. Ça dépend comment on gère notre entraînement puis comment on gère notre activité.
Je me demandais justement s'il y avait pas... Y a-t-il un sport que... Quelqu'un qui dit « Bon, j'aimerais faire un sport et avoir le moins de risque de me blesser le possible. » Y en a-tu un, tu sais, qui est pratiquement pas à risque?
Bien, les sports qui ont moins d'impact ou moins de charge sur les articulations, on parle souvent de la natation parce que là, il n'y a pas le poids du corps. La marche aussi, il n'y a pas beaucoup de... Il y a des impacts, mais ils sont moins importants qu'à la course à pied, par exemple. Le ski de fond, là, on est l'hiver, fait que c'est moins d'impact également. Fait que c'est souvent les trois sports qui reviennent le plus, là. Mais ils ont quand même des risques de blessures. Tout dépend de l'intensité qu'on y met et de la façon dont on les pratique, là. Quelqu'un peut tomber en ski de fond puis se blesser aussi, comme dans un autre sport.
Absolument. Hein. Rien à rajouter.
Ben, il y a le vélo aussi, des fois, qui est effectué, qui n'est pas trop stressant pour.
Parce que je connais beaucoup de coureurs qui se mettent au vélo quand ils sont blessés, puis ça leur permet de ne pas arrêter complètement l'activité physique, puis pouvoir continuer.
Ouais, vélo, natation, c'est souvent deux sports qu'on fait si on se blesse à la course. Parce qu'ils utilisent beaucoup moins, ils sont beaucoup moins traumatiques pour les articulations du membre inférieur.
Et là, je veux qu'on parle de douleur. Il y a beaucoup. C'est quoi le concept de la douleur, le concept scientifique? Ça s'explique là, scientifiquement. Je vais vous entendre là-dessus, puis après ça, on va aller dans les différents types de douleurs, parce que je sais qu'il y a différentes personnes qui réagissent différemment aussi à la douleur. Donc, qu'est-ce que c'est que la douleur?
En fait, la douleur, il faut savoir que c'est produit à 100% par le cerveau. OK? Donc, l'articulation ou la structure va amener un signal, une nociception, qui va être analysé par le cerveau. Donc là, le cerveau va décider ce qu'elle fait avec cette information-là. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'elle doit alerter la personne? Ou finalement, non, c'est pas trop grave, puis on va laisser passer. Donc, c'est vraiment une sensation qui est perçue par le cerveau, analysée par le cerveau, puis c'est le cerveau qui va prendre la décision, ce qu'on va faire avec ça. Quand on a une blessure traumatique, souvent, on va recevoir des signaux, des déceptions importantes. Là, ça va être important d'écouter cette douleur-là parce que ça veut dire qu'il y a eu une blessure, un bris, une lésion d'un tissu. Donc, c'est important de respecter ce signal-là de douleur. Donc, la douleur aiguë, il faut vraiment respecter la douleur. C'est quand la douleur devient chronique que là, peut-être qu'on peut plus jouer avec cette douleur-là. Voir si on peut peut-être continuer à s'entraîner, voir c'est quoi l'effet d'entraînement sur la douleur. Mais à la base, c'est un signal, la douleur. C'est un signal qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis qu'on doit l'écouter, écouter cette douleur-là, puis savoir, puis décider après qu'est-ce qu'on fait avec.
Est-ce que le bagage qu'on a dans notre vie peut amener à une réaction différente de la douleur par rapport à une autre personne qui a la même blessure? Parce que, bon, j'ai eu une blessure comme ça quand j'étais petit, ça m'a tellement fait mal dans ma tête à ce moment-là que là, je la revis à l'âge adulte et là, j'ai l'impression que c'est la douleur incroyable, alors que la personne qui est adulte à côté de moi, c'est la première fois qu'elle le vit et trouve que ça fait pas si mal, finalement. Est-ce que notre bagage peut influencer, justement, l'intensité de la douleur?
Oui, tout à fait. Puis il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, qui s'intéressent à ça. L'état mental dans lequel on est, puis la façon dont on perçoit notre douleur, ça va avoir un impact sur la manière dont on va récupérer de cette blessure-là. Fait que vraiment, ça influence. C'est super difficile d'étudier la douleur aussi parce que c'est très subjectif. Là. C'est difficile de dire, moi, ce que je ressens, est-ce que c'est la même chose que toi? Mais on a démontré que oui, effectivement, la façon dont les expériences, les souvenirs qu'on a, les liens qu'on fait, ça va avoir un impact sur la façon dont on va récupérer.
Et quand on commence à pratiquer un sport de façon plus régulière où on est complètement néophyte, moi, quand je fais de la musculation, je le sens tout de suite, je suis raquée, là, mais raquée comme pas rapport, là, permettez-moi l'expression. Quand on s'y connaît pas trop, comment on peut faire la différence entre une courbature, donc être raquée, et vraiment une blessure là, où on pense que si je continue, ça risque de me nuire là, pour les prochaines semaines, les prochains mois?
Courbature, c'est souvent musculaire. Ça va apparaître 24 à 48 heures après l'activité. Puis après, ça va descendre graduellement. L'inconfort va diminuer graduellement. Puis on sait souvent avec des courbatures, si on bouge, on va se sentir mieux. Puis on va être capable souvent de bouger sans douleur assez normalement. Une blessure, ça va être différent. Une blessure, souvent on va avoir de la douleur durant l'activité ou immédiatement après. On va se lever le lendemain, on va avoir des raideurs articulaires, des douleurs quand on bouge. Souvent, la douleur va rester assez stable si on reprend l'activité. Évidemment, si on arrête l'activité, on va sentir moins de douleur, mais dès qu'on va reprendre l'activité, la douleur va revenir. Donc, ça devient comme récurrent, mm-hmm. ça revient dans oui. le temps. C'est un peu ça la différence. Une courbature, normalement, ça va partir assez rapidement. Oui. C'est ce qui est le fun avec la courbature.
Il n'y a pas trop de danger avec la courbature non plus.
Bien, il peut en avoir si on reprend trop rapidement okay. l'activité.
Je comprends.
Il faut souvent, c'est un signal du corps qu'on est allé un petit peu trop fort. Des fois, ça vaut la peine de prendre un repos avant de reprendre une activité plus intense.
Qu'est-ce qui fait qu'on va être courbaturé plus tard ou plus tôt? Y a-t-il une explication à ça? Moi, des fois, je dis « je suis raqué à retardement ». Des fois, ça peut prendre, puis vous l'avez dit, Jean-Sébastien, ça peut prendre 36 à 48 heures avant de commencer. Là, je me réveille deux jours après mon entraînement, le matin. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'a passé dessus, tu sais, alors que mon entraînement a eu lieu 48 heures plus tôt ou 36 heures plus tôt. Y a-t-il quelque chose qui explique qu'on est raqué plus vite ou moins vite?
Mais c'est le classique des courbatures, en fait, d'apparaître 24 à 48 heures après l'activité physique qu'on a faite. Puis la pathophysiologie des courbatures n'est pas si bien comprise encore. Là. C'est des micro-traumatismes qu'on fait aux muscles qui déclenchent un phénomène d'inflammation, puis c'est ça qui fait la douleur. Maintenant, à savoir pourquoi il y a quelqu'un qui en a plus... tôt ou plus rapidement, là, je ne saurais pas quoi, je saurais pas pourquoi, là. Mais c'est vraiment une classique que ça arrive à retardement. Puis comme on disait, si ça arrive tout de suite après, là, c'est peut-être un signal que c'est une blessure. Puis juste pour rajouter une blessure, une courbature, il ne devrait pas avoir de rougeur, il ne devrait pas avoir d'enflure, il ne devrait pas avoir d'ecchymose non plus. Là, ça, c'est signe que vraiment, il s'est passé quelque chose là, de plus pathologique que juste une courbature.
Je comprends. Puis une courbature, par exemple, si c'est au niveau des jambes, est-ce que le fait de boiter ou d'avoir de la difficulté à marcher normalement, est-ce que ça, c'est signe davantage d'une blessure qu'une courbature aussi, ou une courbature peut apporter le fait de boiter ou...
Bien, souvent, la courbature, on va boiter les premiers pas, mais rapidement, on va reprendre notre patron de marche normal.
Oui.
Tandis qu'une blessure, ça peut être plus difficile. Mais en même temps, une blessure tendineuse, ça peut être, on peut avoir le même effet. Là. Au début, on va commencer à marcher, on va changer de position, on va se lever après avoir été assis pendant une ou deux heures. Oups, c'est raide, on marche un peu, ça prend quelques pas et après, on reprend notre patron de marche habituel. Mais souvent, les courbatures, ça va être au niveau musculaire. Ça va être différent. Quand on va toucher le muscle, on va sentir une sensibilité qui va partir rapidement. Quand c'est plus tendineux, mais on le sent vraiment au tendon, puis le feeling est différent.
On a longtemps entendu, puis même encore, je pense que cette notion-là se dit, peut-être pas des spécialistes de la santé, mais on l'entend, si tu te blesses, t'arrêtes de t'entraîner, il faut plus tu mettes aucun poids, il faut que tu limites tes mouvements, mais en contrepartie, je pense que maintenant c'est plus ça. Je pense qu'on invite les gens qui sont blessés à continuer quand même d'activer leur partie du corps qui est blessée, justement pour reprendre mieux là. Je voudrais vous entendre là-dessus.
Ah, je suis vraiment contente que cette question-là arrive. Là. C'est ce que moi aussi, je me suis déjà fait dire ça, comme « si tu veux pas avoir mal au genou, ben fais rien avec ton genou, c'est la façon de pas avoir mal », mais on sait maintenant que c'est pas du tout ça. Là. En fait, le corps, comme on disait un petit peu au début, là, il a besoin d'avoir une mise en charge pour devenir plus fort, pour s'adapter. Fait que si on décharge le corps à l'inverse, si on n'utilise pas nos muscles, si on n'utilise pas nos os, on le sait, par exemple, quelqu'un qui a un plat, là, le muscle va s'atrophier très rapidement. Même chose pour les patients qui sont en chaise roulante pendant plusieurs semaines. Les os vont finir par se déminéraliser, puis ils vont faire l'ostéoporose parce qu'ils ne sont pas assez sollicités. Fait que c'est la même chose. Quand on veut récupérer d'une blessure, il faut y aller selon la douleur. On ne veut pas augmenter la douleur, on ne veut pas augmenter la blessure non plus, mais le corps a besoin d'avoir une certaine charge pour savoir comment refaire les tendons, comment refaire les os, comment refaire les muscles. Fait que c'est important d'y aller progressivement, mais d'y aller.
Puis qu'est-ce qu'on suggère à ces personnes-là? Bon, j'imagine que ça dépend du type de blessure, mais qu'est-ce qu'on suggère comme mouvement à une personne qui est blessée pour éviter de ne pas faire de mouvement, mais en faire quand même un petit peu?
Bien, c'est vraiment de respecter la douleur. C'est la douleur qui va nous guider ouais. là-dedans. Puis c'est là aussi que ça peut être bien d'avoir un professionnel qui nous guide. Puis ça dépend beaucoup, comme on l'a dit, du type de blessure qu'on a. Là. Fait qu'un os, c'est pas la même chose qu'un tendon, c'est pas la même chose qu'un muscle. Là. Mais de se guider avec la douleur. Puis là, on parle d'exercices de se remettre en mouvement tranquillement. Fait que juste de la mobilisation tranquille, faire bouger notre articulation, faire bouger notre muscle, des étirements tranquillement, du renforcement progressif sans avoir des grosses charges au début, mais on augmente progressivement. Ça peut être ça là, aussi.
Puis aussi d'essayer de bouger le plus normalement possible, éviter les compensations. parce que les compensations, ça amène du stress sur d'autres structures, puis ça peut venir léser les autres structures. Oui. Donc, essayer de reprendre le mouvement le plus normalement. Puis, bouger ou non bouger, ou ne pas bouger, ça va vraiment dépendre du type de blessure. Oui. Si on a une bonne blessure ligamentaire, évidemment, il faut protéger l'articulation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire certaines activités quand même. Donc, c'est vraiment doser l'activité selon le type de blessure. Si on a une blessure tendineuse, mais là, on va y aller plus dans la douleur. Puis on va peut-être moins respecter la douleur parce qu'on sait que c'est une lésion, un tendon, c'est une structure qui doit être mobilisée, mm-hmm. qui doit être stressée si on veut qu'elle guérisse.
Quelqu'un, par exemple, qui se fait une bonne entorse là, à une cheville ou peu importe, là, puis tu sais qu'il y a absolument aucune possibilité pour cette personne-là de mettre du poids sur son pied. J'imagine que, bon, les béquilles sont inévitables, mais est-ce qu'on va suggérer à cette personne-là de le plus vite possible de mettre un petit peu de poids avec l'aide des béquilles? C'est comme ça, au lieu de dire, t'es en béquille 6 semaines, tu touches pas à terre, puis t'essaies le moins possible de bouger ton pied, on va l'inviter à mettre un petit peu de poids dessus. C'est comme ça qu'on fonctionne?
Oui, c'est sûr que ça dépend de l'intensité. Là, oui. S'il y a une fracture qui est associée à oui. l'entorse, là, ça dépend évidemment. Toujours. Là. Des fois, c'est nécessaire d'avoir une immobilisation pendant plusieurs semaines. Si votre orthopédiste vous le dit, on l'écoute. Là. Mais le plus vite possible, on veut que l'articulation rebouge pour éviter qu'il y ait de l'ankylose, pour éviter qu'il y ait des contractures aussi. Fait qu'on va vouloir que le mouvement revienne rapidement.
Si je, par exemple, bon, on va se donner un exemple, je fais un sport, que ce soit le soccer, la course à pied, un sport qui est un petit peu plus à risque, là, comme vous avez énuméré tout à l'heure, et pendant la pratique de mon sport, je sens que, par exemple, au genou, une petite douleur. Là, la petite douleur, c'est pas une courbature, je la sens depuis quelques minutes, puis là, bon, je continue, je finis mon entraînement, mais là, le lendemain, je me lève, puis ah! Ça me fait mal. Puis je me dis, ah, j'ai un autre entraînement aujourd'hui, je vais y aller. Puis là, ben ça fait mal au début, mais là, il me semble que l'entraînement se passe, puis après une demi-heure, je le sens plus. Ben, je vais continuer, Colin, ça devait peut-être juste être une petite courbature. Mais là, le lendemain matin, je me réveille, puis là, ça me fait mal. Puis là, ah, j'ai de la misère à marcher dessus. Quand est-ce qu'on arrête? Tu sais, quand on a le sentiment que c'est une blessure, là, quand on a le sentiment que... On le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'en bout de ligne, on ne veut pas arrêter de s'entraîner parce qu'on aime ça s'entraîner et que ça nous fait du bien. À quel moment il faut se dire, bon là, prends un break, là, t'sais, ou va consulter quelqu'un pour te faire dire ce que tu as? Parce que c'est tough des fois quand on est tellement passionné par notre sport d'arrêter ou de peur de se faire dire qu'il faut prendre une pause pour un certain moment. C'est ça, c'est quand qu'il faut justement... savoir prendre une pause de notre entraînement pour éviter de se blesser trop?
Souvent, c'est douleur durant l'activité, douleur dans les 24 heures suivant l'activité, s'il y a du gonflement à l'articulation ou la région qui est douloureuse. Donc, ce sont tous des signaux qui nous disent qu'on devrait peut-être faire attention. Ça ne veut pas dire d'arrêter l'activité, ça veut dire de moduler l'activité, peut-être en faire moins, s'entraîner moins longtemps, mettre moins de charge, faire, au lieu de courir 10 km, ben essayer de faire 5 km, peut-être faire un 5 km, mais courir une minute, marcher 30 secondes, courir. Donc, ça ne veut pas dire d'arrêter, ça veut dire de faire des tests. Il n'y a pas de réponse parfaite à votre question.
Mm-hmm.
En fait, souvent, il faut faire des tests, voir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre un entraînement qui ne mènera pas de la douleur, qui va nous permettre de ne pas avoir de douleur pendant 24 heures après l'entraînement, puis qui va nous permettre de faire un autre entraînement, peut-être 24 heures, 48 heures plus tard, sans douleur. Donc, c'est tous des signaux qu'il faut observer, puis qui vont nous dire si l'entraînement qu'on fait est trop intense, peut-être la petite blessure qu'on s'est faite lors du premier entraînement, mais que là, on permet à cette blessure-là de guérir tout en restant actif. Des fois, ben, il n'y a rien à faire, il faut arrêter un certain mm-hmm. temps ou changer d'activité. Donc, au lieu de faire de la course, peut-être arrêter la course un certain temps, puis faire de la natation, faire du vélo. Donc, adapter un peu notre entraînement selon la douleur.
Quand on sent là, qu'il y a une blessure, qu'elle est là et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, on va voir qui? Ça aussi, c'est une question qu'on se fait poser, que je me fais poser, mais encore là, comme je l'ai dit, je suis juste une passionnée de course à pied, là, mais on va voir qui pour ça? Jean-Sébastien, vous êtes physiothérapeute, Marie-Hélène, vous êtes physiatre, on va voir quel genre de personnes? Bon, j'imagine que vous êtes les bonnes personnes, mais y en a-tu d'autres? Y en a-tu d'autres qu'il faut peut-être, ben, pas moins aller voir? Mais bon, c'est ça, des fois, c'est mêlant. Il y a tellement de spécialités qu'on ne sait plus trop là, quoi faire quand on est blessé.
Bien, d'aller voir d'abord quelqu'un en qui on a confiance. Là. Fait que, commencer par un physiothérapeute, ça peut être votre médecin de famille, un médecin du sport, ça peut être une bonne porte d'entrée. L'important, ce qu'on dit souvent, c'est que la personne vous aide à comprendre ce que vous avez, puis vous responsabilise aussi, puis vous aide à prendre en charge votre blessure. On ne veut pas un abonnement là, à des rendez-vous qui s'éternisent des semaines et des semaines, puis finalement, ça vient qu'à coûter cher aussi souvent, mm-hmm. ce genre de rendez-vous-là. Fait que si vous êtes dans cette voie-là, c'est peut-être qu'il faut se remettre en question puis d'aller voir ailleurs. Là. Mais l'important, c'est ça. Il n'y a pas une personne nécessairement à aller voir en premier. Là. Souvent, les physiatres, nous, on est plus en les dernières lignes. Mm-hmm. Là. Fait que c'est les médecins de famille, les médecins du sport qui nous réfèrent les patients quand vraiment il y a des pathologies qui persistent puis qui ne se résolvent pas. Là. Mais physiothérapeute ou des spécialistes comme ça, la santé, ça peut être des bonnes premières avenues. Là.
Puis un physiothérapeute, parce que j'ai l'impression, comme Marie-Hélène l'a dit, la physiatrie, c'est un petit peu plus loin vraiment là, quand, c'est des références que vous recevez. La physiothérapie en tant que telle, ça fait quoi? T'sais, quand on n'en a jamais consulté, des fois on peut mêler la physiothérapie, j'ai l'impression, avec d'autres types de spécialités. Qu'est-ce que ça fait la physiothérapie?
Bien, le physiothérapeute va évaluer la condition. Donc, vous regardez comment vous bougez, la bonne force, comment le contrôle du mouvement. S'il y a des raideurs, il va évaluer aussi votre peur du mouvement. Il va évaluer votre capacité à faire certaines activités. Ensuite, il va vous donner un programme adapté à votre condition. Mm-hmm. Évidemment, de plus en plus, on s'aperçoit l'importance d'éduquer notre patient. Donc, de s'assurer que le patient comprend bien sa condition, qui comprend bien aussi c'est quoi les étapes pour guérir. Ensuite, c'est souvent avec des exercices qu'on va aider les gens qui ont de la douleur. Donc, on va donner des exercices de mobilité, de renforcement, améliorer la façon que la personne bouge. Mais souvent, juste avec un bon programme d'exercice, quelques conseils, on réussit à améliorer l'état du patient là, mm-hmm. qui nous consulte.
Jusqu'à quel point la motivation du patient va faire une différence dans la guérison d'une blessure? Parce que, tu sais, des fois, on peut aller consulter justement un physiothérapeute qui va nous donner un plan. Mais si la personne n'est pas motivée puis qu'elle ne fait pas ses exercices, c'est sûr que ça ne marchera pas. Jusqu'à quel point, justement, la motivation ou l'assiduité du patient va faire la différence dans la guérison de sa blessure?
Bien, l'assiduité est extrêmement importante. Mm-hmm. Donc, si la personne vient nous voir, on s'attend à ce qu'elle veut prendre part à sa réadaptation, donc à la guérison de sa blessure. On voit de plus en plus dans les études que la capacité du patient à autogérer sa douleur est très importante. Donc, ceux qui ont beaucoup de capacité à autogérer leur blessure, c'est ceux-là qui vont mieux progresser dans le temps. Donc, le physiothérapeute, dans ce temps-là, est là, ou n'importe quel professionnel de la santé, est là pour guider le mm-hmm. patient. Donc, lui expliquer, donner les bons conseils, donner les bons exercices, puis expliquer au patient comment progresser dans son programme. Puis la personne qui va être capable de bien faire ça, souvent, c'est ceux-là qui vont mieux répondre au traitement, qui vont rapidement se débarrasser de la douleur puis reprendre l'entraînement.
Est-ce que rapidement, quand on a une blessure, on est mieux d'aller voir quelqu'un plutôt que de googler notre mal ou notre symptôme? Mais non, mais est-ce que c'est vrai? Parce que Dr. Google peut faire peut-être des fois empirer la situation, j'imagine, parce qu'on pense qu'on a quelque chose. On essaie de l'auto-traiter, puis finalement, c'est pas ça pendant tout, puis ça empire la situation.
Parce qu'il faut pas oublier qu'à peu près 80 % des blessures de surutilisation sont dues à des erreurs d'entraînement. Mm-hmm. Donc, on progresse trop vite, un coureur change de soulier pour un soulier qui est pas adapté, pour un soulier peu adapté à sa condition. Donc, c'est souvent des erreurs d'entraînement qui mènent à des blessures. C'est que souvent, juste parler à quelqu'un, expliquer la blessure, puis la personne va donner des conseils, peut-être pour améliorer son entraînement, peut-être au début pour ralentir un peu l'entraînement, pour diminuer la douleur, puis ensuite progresser pour reprendre le niveau que la personne avait. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est important de consulter quelqu'un. C'est pour corriger ces petites erreurs-là d'entraînement qu'on fait puis qui mènent à des blessures de surutilisation.
Vous venez de m'allumer sur quelque chose, Jean-Sébastien, l'équipement. Que ce soit la course à pied, le soccer, le tennis, jusqu'à quel point l'équipement, la qualité de l'équipement fait la différence aussi dans les possibilités de se blesser?
C'est super important, l'équipement. Ça fait partie des causes de blessures les importantes, là, les plus fréquentes. Là. Comme on disait tout à l'heure, changer de chaussure pour une chaussure complètement différente de ce qu'on avait avant, du tout au tout, tout, c'est une cause de blessure aussi. Là. Fait qu'il faut faire attention. La surface sur laquelle on s'entraîne, ça peut causer des blessures également. Fait qu'il faut être à l'affût de tout ça. Fait qu'il faut s'informer, il faut prendre le temps de regarder ça. Puis si on a un doute sur l'équipement qu'on a, il ne faut pas hésiter à le remettre en question puis peut-être aller voir des spécialistes justement pour nous aider, pour nous guider parce que des fois, il y a tellement de choses qui sortent, il y a tellement de tendances aussi, c'est difficile de s'y retrouver.
Parce qu'une couleur de soulier, c'est pas ça qui va t'empêcher de te blesser. Exact. Hein, non, c'est pas ça.
Puis il y a le geste sportif aussi qui est important. Il y a beaucoup de nageurs qui se blessent parce qu'ils n'ont pas une bonne mécanique à la nage. Il y a des golfeurs qui se blessent aussi parce qu'ils n'ont pas une bonne motion quand ils frappent la balle. Donc, il y a ça aussi des fois qui doit être analysé. Mm-hmm. Puis, il y a des experts, hein, il y a des entraîneurs qui peuvent observer la façon que le nageur va nager, que le golfeur va frapper la balle, que le joueur de tennis va frapper la balle. Donc, souvent, c'est important de vérifier le geste sportif parce que ça aussi, oui. En plus de l'équipement, il y a le geste qui oui. doit être souvent amélioré.
Chaud ou froid, qu'est-ce qu'on met sur une blessure? Honnêtement, je ne sais jamais quoi mettre. Je ne mets rien. Fait que je ne suis peut-être pas mieux que personne, là, mais je
ne mets rien.
Je me plains que j'ai mal, mais je ne mets rien. Mais sérieusement, on met du chaud quand puis on met du froid quand?
Il n'y a pas de données probantes qui démontrent que le chaud est efficace pour telle situation et le froid efficace pour telle situation. Souvent, les gens vont mettre du froid après une blessure traumatique pour diminuer la phase inflammatoire, mais en même temps, souvent, la phase inflammatoire est importante après une blessure pour bien réparer la lésion. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas non plus briser cette phase inflammatoire-là. L'avantage de la douleur, c'est que ça diminue la douleur. L'avantage de la glace, c'est que ça diminue la douleur à court terme. Mm-hmm. OK? Donc, il ne faut pas penser que mettre de la glace, ça va régler le problème. Ça va soulager, ce qui est super important. Souvent, quand on se blesse ou quand on a mal après un entraînement, on va mettre de la glace, ça va nous soulager, on va être mieux. Ça a un effet immédiat, mais ce n'est pas ça qui va régler souvent le problème à long terme. Puis souvent, ça peut venir même masquer la douleur qu'on a. Puis là, on se dit, ah, ben, finalement, après avoir mis notre glace, on n'est pas si pire, on est capable d'aller s'entraîner le lendemain, quand peut-être qu'on aurait dû écouter le corps, puis que le corps nous envoyait un signal qu'il fallait peut-être adapter notre entraînement pour ne pas produire de douleur après l'entraînement. La chaleur, si on regarde, selon l'American College of Physicians, après une blessure lombaire, l'intervention qui a le plus haut niveau d'évidence, c'est de mettre de la chaleur. Donc, si quelqu'un qui Google ça, il va voir que ce qui est recommandé, c'est de mettre de la chaleur dans le bas du dos après une blessure aiguë. Mais si on regarde bien les études qui démontrent que c'est efficace, c'est des études faites par des compagnies pharmaceutiques. Qui produisent des hot packs, là, ce qu'on appelle, ouais. qui mettent dans le dos. Donc, il faut faire attention parce qu'on est en train de faire un essai clinique randomisé au CIRIS, puis on regarde l'efficacité parce qu'on était comme surpris de voir que l'intervention qui avait le plus haut niveau d'évidence, c'était de la chaleur, qu'on sait que souvent, c'est pas si efficace que ça. Puis on s'aperçoit qu'avec l'essai clinique randomisé qu'on fait présentement, on voit pas d'effet là, de la chaleur par rapport à des exercices normaux.
Est-ce que l'accouchement, l'accouchement, parce que je viens de le vivre, est un traumatisme pour le corps? Est-ce qu'on peut considérer l'accouchement, le type de traumatisme, comme une blessure dans le sport? Parce que, bon, je suis une sportive qui vient d'accoucher et qui a hâte de reprendre le sport. Est-ce qu'on doit faire un retour au sport comme un retour de blessure quand on vient de donner naissance? Comment ça marche?
C'est super intéressant, ça. Moi aussi, j'ai beaucoup lu là-dessus, étant nouvelle maman, oui. là, qui faisait du sport aussi et qui a hâte de reprendre également. Et de plus en plus, oui, c'est ce qui ressort parce qu'avant, bon, l'accouchement, c'était considéré comme quelque chose de naturel et donc la récupération devrait se faire naturellement. Mais maintenant, on est plus dans être proactif. Mm-hmm. Et comme on l'a dit, c'est quand même un traumatisme, c'est un stress pour le corps là, d'accoucher. Il y a des tissus qui sont étirés, qui sont déchirés. C'est l'équivalent d'un gros entraînement et même plus. Là.
Et, pas pire.
Il y en a qui font le parallèle, justement, un athlète qui se blesserait, qui se ferait une grosse entorse, mais on ne le retourne pas sur le jeu le lendemain sans évaluation. Fait que c'est un peu la même chose pour un accouchement. Fait que de plus en plus, on prend les femmes qui ont accouché comme un peu des athlètes qui ont eu des blessures sportives et que c'est important d'être proactif, pas attendre qu'il y ait des douleurs urinaire ou qu'il y ait de l'incontinence, des fuites urinaires pour faire quelque chose. Fait que d'avoir une évaluation, d'avoir un suivi, c'est important. Fait que oui, c'est super intéressant de voir que l'accouchement, on peut aider à s'en remettre aussi puis à favoriser le retour au sport. Puis c'est le journal britannique là, de médecine du sport aussi qui a publié dans son blog un article là-dessus qui est super bien illustré. Puis il y a quand même près de 80 % des femmes qui retournent à la course après puis qui le font de façon avec succès, là, qui réussissent à retourner. Fait que c'est super encourageant également.
C'est bien beau avoir des spécialistes pour nous encadrer quand on est blessé, avoir un plan de retour à l'activité physique, mais des fois, c'est tough de respecter tout ça parce qu'on a hâte de reprendre une blessure qui est mal guérie. Quel genre de risque on court à mal guérir sa blessure ou à recommencer avant que la blessure soit guérie?
Bien, il y a plusieurs risques. Premièrement, on peut souvent, quand on a une douleur, on va compenser. On va compenser pour éviter la douleur. Donc, ce qui peut arriver, c'est de créer de nouvelles blessures. Parce que si on compense, on va stresser d'autres structures qui n'auraient pas dû être stressées. Donc, ça peut amener à des blessures autres que la blessure primaire. Ensuite, il faut savoir que si on change notre façon de bouger, ça va avoir des changements aussi au niveau du cerveau. Donc, le cerveau, c'est lui qui décide comment on bouge. Donc, si on lui montre une nouvelle façon de bouger, mais ça se peut qu'il commence à utiliser toujours cette nouvelle façon-là. Puis que ça va amener, encore une fois, des compensations qui vont persister. Puis là, ça va amener une chronicisation de l'état. Donc, là, après, c'est beaucoup plus compliqué de régler ce problème-là. Une fois qu'il est chronicisé, une fois qu'il est bien implanté dans le cerveau, que le cerveau a une nouvelle façon de bouger, toujours pour protéger la blessure primaire.
Tant que c'est pas la première fois que j'entends des gens dire « ça fait 20 ans que je traîne une douleur, j'ai arrêté de faire de la course à pied parce que j'ai mal, j'ai réessayé dernièrement, puis elle est revenue ». Tu sais, c'est ça la
chronicisation.
Chronicisation, ouais. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que la douleur, elle est tellement, présente de façon régulière qu'elle s'en va plus, c'est ça?
Ben, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la chronicisation. Il peut avoir le fait qu'on change notre façon de bouger. Ça peut aussi être expliqué par le fait que le cerveau n'est pas capable d'enlever cette mémoire-là de la douleur. Donc, c'est comme si on avait un piton collé dans le cerveau qui fait que même si on n'a pas vraiment de nociception qui monte au cerveau, lui, il perçoit toujours de la douleur. C'est qu'il envoie toujours un signal de douleur. Ça, c'est problématique. Ça doit être rééduqué. On peut rééduquer la douleur.
Ça se fait.
Que souvent, il n'y a même plus de lésion. Chez certaines personnes, il n'y a même plus de lésion. Si on fait de l'imagerie, on ne voit plus rien au niveau de la blessure initiale. Mais la personne ressent encore une douleur.
Puis ça se fait comment, cette rééducation-là?
Bien, souvent, c'est beaucoup d'éducation. OK? Donc, éduquer le patient que oui, ça se peut qu'on ait de la douleur puis qu'il n'y ait plus de blessure.
Donc, apprendre à vivre avec?
Pas nécessairement avec. Bien, il y en a qui finissent par apprendre à vivre avec parce que la douleur ne disparaît pas. Mais souvent, c'est de reprendre l'activité graduellement, de restresser l'articulation, montrer à la personne qu'elle est capable de bouger sans douleur. Donc, c'est beaucoup réapprendre à bouger avec une articulation puis montrer à la personne, c'est ça, que l'articulation n'est plus blessée puis qu'on est capable de faire des mouvements, de faire des activités sans augmenter la douleur.
Quand même. Donc, le mot à retenir de ce balado, c'est prévention, j'imagine, plutôt que traitement. On va passer à notre dernière question, la question la plus stressante de tous nos intervenants jusqu'à maintenant dans ce balado. Et pourtant, c'est puisque le balado s'appelle Santé sans rendez-vous, avec qui prendriez-vous rendez-vous, que ce soit une vraie personne, une personne fictive, vivante ou décédée à l'heure actuelle? Je vous écoute, Jean-Sébastien, Marie-Hélène, qui veut commencer?
C'est vrai que c'est une bonne question. Oui. Là, ça a amené des réflexions, puis j'ai cherché. Puis je me suis rendu compte qu'un nom, bien, c'est quelqu'un que j'ai pas connu. Là. J'ai fait des recherches, comme on dit. Irma Levasseur, qui est finalement la première femme canadienne-française à être médecin, qui a fondé l'hôpital du CHU Sainte-Justine et de l'Enfant-Jésus, où je travaille, entre autres. C'est un nom, moi, que je vois, mais à qui je ne m'étais jamais très attardée. Mais c'est une dame qui est allée aux États-Unis faire ses études en médecine à un moment où c'était interdit au Canada pour une femme de pratiquer la médecine.
Wow!
Fait que si je pouvais avoir un rendez-vous avec elle, ce serait de savoir qu'est-ce qui l'a motivée. Des fois, on se laisse abattre par des défis pas mal plus petits que ça ici, maintenant. Puis qu'est-ce qui pousse les gens à avoir des déterminations comme ça? Là, ce serait vraiment, je pense, une discussion intéressante à avoir avec cette dame-là.
Absolument. Jean-Sébastien?
Moi, je suis resté dans le sport. Peut-être Tom Brady.
Ah, ouais.
Parce que je suis impressionné que quelqu'un de 44 ans a été capable de jouer aussi longtemps au football, un sport très brutal pour le corps, puis qui est pratiquement pas raté de partie, qui soit resté en forme, qui ait réussi à garder des performances incroyables malgré son âge. Donc, il y a quelque chose en lui qui peut-être qui nous permettrait de mieux comprendre l'entraînement, puis c'est ça, comment vivre dans le sport sans être trop blessé. Peut-être qu'il nous cache des blessures, mais en tout cas, de ce qu'on voit de l'extérieur, il semble en forme.
On abordait le sujet des blessures sportives aujourd'hui. Jean-Sébastien Roy, Marie-Hélène Lavallée-Bourget, merci beaucoup. Ce fut une discussion fort intéressante.
Merci à vous.
Merci beaucoup.